alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page où nous nous retrouvons en ce vendredi 22 décembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors c'est la dernière émission de l'année 2017 et pour terminer tout en humour et en sourire, je reçois Chrysostome Gouriot. Bonjour Chrysostome.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons vous présenter son roman intitulé « Rufus le fantôme » publié aux éditions Sarbacane. Mais avant la page info, avec une exposition à la
page Claire Ambille.
Avec une exposition à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, au rez-de-jardin, qui aura lieu jusqu'au 14 janvier prochain. Ça s'appelle « Le chant du crabe ». Ce sont des dialogues entre le peintre Roger Combe-Estève et l'écrivain Didier Goupil, qui avait d'ailleurs écrit la biographie et publié la biographie de ce peintre en 2015 sous le nom de « Journal d'un caméléon ». Donc c'est à découvrir à la médiathèque José Cabanis jusqu'au 14 janvier. Alors merci à Esther qui fait la technique de cette émission aujourd'hui. Alors, Chrysostome, Rufus le fantôme, alors c'est un roman à la fois drôle, ludique et instructif, j'ai trouvé. On apprend plein de choses. Et puis avec des très belles illustrations qui collent parfaitement à ton texte, puisque en fait, donc le texte, j'explique aux auditeurs, le texte c'est toi, c'est Chrysostome Gouriot. Et puis les illustrations, c'est Églantine...
Queulemence.
Voilà. Et donc, c'est, comme je disais, c'est toutes les illustrations qui sont en noir et blanc.
Tout à fait.
Illustrent parfaitement eh bien, le texte. Alors, des fois, il y a des doubles pages. Alors, il faut savoir que les chapitres sont décorés avec des petits os, sont numérotés et avec des petits os, des petits... Voilà. Et puis, donc, c'est une histoire originale de fantômes, mais pas que, on va le voir, parce que cette histoire amène à faire découvrir eh bien, au lecteur le thème de la grève, de la manifestation, des revendications.
Tout à fait. D'où le sous-titre, en fait, le titre complet est « Rufus le fantôme ou la grève de la mort ».
Oui, tout à fait. J'ai omis de dire le sous-titre qui a toute son importance. Effectivement, merci Chrysostome. Alors, avec l'humour de l'auteur, hein, qu'on le retrouve avec grand plaisir, voilà, des clins d'œil, et puis de la tendresse aussi pour ses personnages, pour les principaux personnages de ce roman.
Oui, j'avais envie d'un roman qui soit à la fois drôle, qui soit un roman d'aventure, donc avec un peu, avec plein de suspense et de rebondissements, mais aussi beaucoup de tendresse. C'est quand même l'histoire d'un jeune fantôme, alors de 526 ans, mais qui...
Mais qui ne fait pas son âge, hein.
Exactement, parce que quand il est mort...
Il ne fait pas ses siècles.
Oui, en fait, quand il est mort, il avait 10 ans, donc il est resté ce jeune garçon, et donc, comme tous les enfants, il a des parents, et donc des histoires avec ses parents.
Avec ses parents, puis il a l'école aussi, avec sa maîtresse, Madame Pomblette.
Exactement.
On va le voir. Alors, tu dirais que c'est un livre pour quel public? Enfin, moi je dirais tout public, même pour les parents, hein, mais bon, à partir de quel âge?
Alors, la collection Pépix, dans laquelle il est intégré chez Sarbacane,
oui.
Est une collection de romans qui est calibrée, entre guillemets, ou en tout cas à destination des jeunes enfants entre 8 ans et 12 ans.
D'accord.
Alors, peut-être que Rufus, on peut commencer à le lire à partir de 9 ans, après ça dépend du niveau de lecture.
Oui,
mais
voilà.
Surtout, ce que j'ai voulu, c'est en faire un roman qui soit avec plusieurs niveaux de lecture. Je pars du principe que les parents, souvent, commencent à lire les romans ou les histoires avec leurs enfants. C'est eux qui vont les choisir aussi, bien souvent, dans les librairies. Donc, il fallait que ça leur plaise aussi. Et puis, j'aime bien m'adresser à tous les publics et faire en sorte que tout le monde puisse y prendre plaisir.
Eh ben, c'est gagné. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton livre. J'ai beaucoup souri au fil des pages. Et en tant que parent, je le conseillerais fortement. Bon, mes filles sont un peu grandes maintenant, mais voilà, je le conseillerais fortement si j'avais un enfant encore de l'âge dont tu parles, là, voilà, 9-10 ans. Donc c'est à mettre, en plus, à 3 jours de Noël, c'est à mettre vraiment au pied des sapins. Voilà, et les parents vont sourire en lisant aussi, parce que forcément, comme tu dis, il y a plusieurs niveaux de lecture. L'enfant, lui, va voir ce qui est, on va le voir les choses, mais après les parents, nous, on sourit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup de, tu fais passer des messages aussi. Enfin, il y a
oui, après il y a des références un peu pour tout le monde, parce que j'aime bien aussi partager un petit peu avec mes lecteurs. Donc ça va de Harry Potter jusqu'à la révolte de Kronstadt en Russie.
Oui, voilà, il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux, enfin tous les niveaux, quand je dis niveau, c'est voilà, au niveau des âges, hein,
oui,
l'expérience de la vie, voilà. Alors le début du livre, on fait connaissance, et bien donc avec Rufus, justement, qui est en classe, un magnifique caveau aux volutes gothiques, et puis sa maîtresse, comme je disais, Madame Pomblette, qui entre en classe en traversant les murs, hein, voilà.
C'est un fantôme.
Et oui. Alors la punition suprême, c'est être privé de cours de hurlement. J'ai beaucoup aimé. Alors il a un copain qui s'appelle Octave, son meilleur ami, c'est un zombie de la tombe d'à côté.
C'est ça, c'est le zombie de la tombe d'à côté.
Voilà. Alors qu'il y a un défaut d'élocution qui est dû en fait à... Heureusement qu'il y a la traduction d'ailleurs, parce que je crois que je n'ai toujours pas maîtrisé le...
je ferai peut-être un jour un dictionnaire d'Octave.
Ah oui,
voilà,
parce que
pour apprendre
à
parler le Octave.
Donc il a la langue avalée. C'est pour ça toute son élocution s'en trouve perturbée, on va dire.
C'est un zombie, donc il moisit un peu sur pattes et donc il perd des bouts de son corps de temps en temps.
Voilà. Alors on apprend, donc c'est là qu'on apprend justement, comme tu le disais tout à l'heure, que Rufus a perdu la vie à 10 ans et qu'il ne fait pas ses siècles, c'est
526
ans. Que ses parents, eux, sont dans la force de l'âge avec 5347 ans et 4871 ans.
Hein,
c'est tout à fait la force de l'âge.
Oui, voilà. Pour un fantôme, oui.
Tout à fait. Et ils ont hanté les maisons de Homère et de Virgile.
Oui,
quand
et
même
puis d'autres aussi.
Et d'autres aussi.
Alors j'avais prévu dans la première version qu'ils aient hanté plein d'autres maisons de grands savants, d'intellectuels, de philosophes, d'auteurs, etc. Bon, finalement, c'est des détails que j'ai passés parce que ça apportait pas grand-chose à l'histoire. Mais oui, ils ont hanté plein
de maisons
d'auteurs très célèbres.
Le père de Rufus, dit le prof, hein, voilà, est quelqu'un d'érudit.
Tout à fait.
Ce sont des... Voilà. Alors Rufus donc est donc un fantôme revenu d'entre les morts, donc sans son enveloppe corporelle, alors que son ami Octave, lui, l'a conservé.
Tout à fait. Et on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est un mort-vivant qui a conservé ça. Voilà. Et alors, ils se sont donc rencontrés à l'arrivée de Rufus au cimetière, puisque ça, forcément, donc, ils vivent dans un cimetière. Et donc, depuis eux deux, c'est à la mort.
Oui. C'est-à-dire que nous, c'est à la vie, à la mort. Eux, effectivement.
Et oui,
sera à la
eux,
mort,
c'est à la mort, à la mort. Voilà, ils se sont rencontrés. Alors, les chapitres sont alternés. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça, c'est original. Quand je disais que c'était ludique, ton livre, c'est ça aussi. C'est les chapitres sont alternés avec des bonus. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Alors il y en a plein. Hein. Je pourrais citer le bonus animalier, le bonus déguisement,
un bonus cuisine aussi.
Oui, celui-là avec pour cuisiner un muffin au cœur de lombric.
C'est ça, exactement.
Ah oui, ça c'est oui, c'est ça doit être quelque chose.
Les bonus comme ça, c'est un des principes de la collection aussi. Mais chaque auteur se saisit de ce petit jeu pour en agrémenter son roman. Alors ça dépend des auteurs. Il y en a qui en font 1, 2, 3 par roman. Là, j'avais plein d'idées. Je me suis dit que j'allais en mettre après chaque chapitre.
Voilà ce que j'allais dire. Voilà, il y a 12 chapitres, donc il y a 12 bonus. Voilà. Et il y a aussi le bonus exercice pratique, le cri qui tue. Hein, voir si quelqu'un décède à la suite de ce cri. Le bonus cuisine. Et puis, il y a aussi des bonus dessins, messages aussi. Il y a aussi, voilà, écrit ton mensonge. Ah oui, le bonus mensonge. Écrit ton plus gros bobard, voilà. Alors voilà, tout un tas de bonus qui agrémentent, ce roman. Alors donc, dans ce cimetière vivent aussi, bien sûr, des vampires venus tout droit des Carpates, mais aussi des spectres, des momies qui ne parlent que l'égyptien antique, bien sûr. Et puis aussi des morts vivants. Et puis, quand l'école est finie, à l'aube, tous volent, ou décampent quand sonne le glas.
Tout à fait. Ah, c'est un cimetière.
Oui, ben voilà, oui, tout à fait.
Mais un cimetière très animé.
Ah oui. Puis alors la mode vestimentaire a beaucoup changé. On n'en est plus au drap blanc avec les trous pour les yeux. Non, non, maintenant, aujourd'hui, c'est une grande robe avec des grandes manches qui laissent sortir le crâne. Alors, manche def ou slim, c'est au choix.
Bah, c'est un peu plus swag.
Voilà, oui. En plus, j'aime beaucoup parce qu'en fait, Rufus et son copain Octave, eh bien, en fait, ont un vocabulaire, comme on peut l'avoir entendu auprès de nos jeunes, c'est un vocabulaire très actuel. Voilà, justement, ils emploient swag, etc. Voilà, c'est très.
Tout à fait. Ouais, c'était, alors c'était, comme Rufus a 526 ans, c'était un peu compliqué de lui faire parler le vieux François.
Ah oui.
Déjà qu'on
oui.
comprend pas bien Octave, s'il avait fallu le faire parler
ah oui,
à l'ancienne,
là,
ça aurait été un peu
ça aurait
compliqué.
été compliqué. Alors les parents de Rufus, donc, écoutent plutôt Mozart, alors que Rufus, lui, est plutôt Iron Maiden.
Oui.
Iron Maiden, voilà.
Conflit de génération.
Voilà. Avec son linceul noir et relooké, alors avec le patch Live After Death, c'est
C'est
ça? Je sais
ça.
pas, je
C'est
me
Live
trouve pas
After
bien.
Death, oui, c'est un des concerts célèbres d'Iron Maiden.
Voilà. Clou et fermeture éclair, hein, donc il est vraiment très.
Ah, il a un côté un peu métal.
Un peu, ah oui, Rufus, voilà, c'est un fantôme, voilà, pas un fantôme moisi, quoi, je dirais,
Non.
dans sa mode vestimentaire. Alors, Rufus et Octave ont un vocabulaire, voilà, comme je disais, donc très actuel. Puis, alors, le vendredi soir, c'est la fête au cimetière, pour tout du moins pour Rufus et Octave qui s'en donnent à cœur joie, parce qu'il y a des punks avec des chiens qui viennent ben, dans le cimetière à la nuit tombée, là, et puis des étudiants, et donc ils s'amusent en fait à leur faire peur avec une série de
Ils font leur devoir, hein, comme tout bon revenant, ils font leur devoir avant de commencer le week-end, comme ça après ils sont débarrassés.
Voilà. C'est une manière de. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Alors, tous vivent en harmonie, hein, dans ce cimetière où il y a aussi, eh bien, la mort.
Tout à fait.
Forcément. Et depuis que Rufus, en fait, l'a rencontré, tout à fait par hasard, au détour d'une allée du cimetière, eh bien, il sait ce qu'il veut faire plus tard. Il veut faire la mort. Alors, celle du cimetière, en l'occurrence, celle du cimetière où habite Rufus s'appelle Melchior. Et son costume, c'est. C'est grave la classe, comme dit Rufus. Ah ça, voilà, avec sa faux, sa grande cape, voilà, c'est. Et on a l'illustration, bien sûr, qui à chaque fois qui illustre parfaitement ce que tu as imaginé.
Oui, alors ça a été un vrai bonheur en fait, parce que quand
Le travail avec
avec
Églantine.
Églantine, quand Thibaut Bérard, donc notre éditeur, nous a mis en contact, je connaissais un tout petit peu le travail d'Églantine déjà, pour avoir lu quelques-uns des livres qu'elle avait illustrés. Et dès les tout premiers dessins, on a senti que ça collait. Les tout premières esquisses qu'elle avait faites de Rufus et Octave, c'était vraiment comme je l'imaginais. Et dès qu'elle a commencé à rentrer dans les dessins et à construire visuellement l'univers de Rufus et Octave, ça collait complètement au texte. Ça a été un vrai bonheur de travailler avec elle. Il y a eu énormément d'échanges entre nous. Et à chaque fois qu'on se lançait des idées, alors ça, on travaillait à trois, hein, avec Thibaut. Mais à chaque fois, voilà, un lançait une idée, l'autre rebondissait dessus. Enfin, ça a été un vrai bonheur.
Ouais, mais ça se sent. Hein. Enfin, genre, ce livre, il est vraiment plaisant à lire. En plus, il est écrit, je trouve, l'écriture est assez espacée pour les lignes. C'est pas tout serré. Enfin, je trouve que pour les jeunes lecteurs, enfin, 8-9 ans, comme on a dit, ou 9-10 ans, je trouve que c'est agréable à lire. En plus, voilà, il y a les illustrations d'Églantine et puis le texte qui est très aéré. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est très plaisant à lire.
Il y a une quarantaine d'illustrations, effectivement. Et
Ah
puis, elle a eu
oui.
la gentillesse d'en faire un peu plus, puisqu'à la fin.
Ah oui, il y a
Voilà,
les
il y avait
planches
des planches
anatomiques,
anatomiques de la
oui.
mort d'un zombie et d'un fantôme,
Tout à fait.
voilà, qui était pas prévues au départ dans le livre
D'accord, et
qu'elle
qu'il
a
a
eu, voilà,
fait.
qu'elle a eu
Non,
la
vraiment,
gentillesse d'illustrer pour faire une sorte d'ultime petit bonus.
La mort est presque plaisante, hein, dans ce costume. Hein. C'est
Oui,
dommage que les auditeurs ne puissent pas
il a une
voir.
Tête
Mais...
plutôt sympa, Melchior. Bah, il faudra qu'ils aillent voir dans le livre.
Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, on continue notre histoire. Donc, Melchior, la mort du cimetière, qui a son bureau donc au sein du cimetière où réside Rufus. Et donc, autrefois, donc la mort était une affaire familiale, mais aujourd'hui, c'est devenu une multinationale et Melchior travaille pour elle. C'est une énorme firme qui possède des succursales partout sur Terre et son siège a été délocalisé de Grèce en Transylvanie.
Oui, alors en fait, la question que je me suis posée en commençant à écrire l'aventure de Rufus, c'est si la mort travaille, comment est-ce qu'elle peut s'occuper de 7 milliards d'êtres humains?
Ah,
donc
oui.
Il a fallu se rendre à l'évidence que c'était pas possible, c'est pas le Père Noël, elle peut pas être partout à la fois. Du coup, la mort, c'est nécessairement une énorme entreprise avec plein d'ouvriers partout dans le monde, ou en tout cas plein de salariés partout dans le monde, qui travaillent, qui œuvrent à faire en sorte que les humains passent de vie à trépas.
Alors, il y a une antenne dans chaque ville, des quotas à respecter, et puis parfois des missions particulières, comme un effondrement d'un immeuble ou un glissement de terrain.
C'est-à-dire que ça devient pratique de faire passer les vivants de vie à trépas en groupe. Parce qu'à force de s'occuper de chacun tout le temps, ça devient un petit peu compliqué.
Tout à fait. Alors en classe, il y a Madame Pomblette, leur maîtresse, leur propose de faire un exposé du métier qu'ils voudraient faire plus tard. Alors forcément, Rufus et Octave choisissent de faire un exposé sur la mort. Et donc, ils vont un peu en stage, si je puis dire, chez Melchior pour apprendre le maximum de choses. Le titre de leur exposé, c'est « La mort, une activité d'avenir ».
Oui, a priori, ça ne devrait pas s'arrêter tout de suite.
Je pense non,
qu'effectivement,
je
si
je
les jeunes auditeurs nous écoutent, peut-être qu'ils pourraient s'orienter vers ce genre d'agrément.
Tout à fait. Alors avec organigramme, frise historique, liste des qualités nécessaires pour faire une mort efficace, compétente. Et puis les avantages de cette activité. Alors pas de routine, nombreux déplacements, rencontres avec des gens de toutes coutumes, de tous horizons, de toutes religions.
Ah oui,
beaucoup de diversité, de mixité finalement.
Tout à fait. C'est un métier assez ouvert. Voilà. Quand on est un jeune revenant, effectivement, c'est un métier d'avenir.
Tout à fait. Alors, à la suite de cet exposé et de son succès au prix de ses camarades, il y a malheureusement la convocation des parents de Rufus par la maîtresse. Et donc la colère du père de Rufus d'apprendre le vœu de son fils de devenir la mort plus tard. Il lui dit d'ailleurs, tu finiras seul à moissonner des cadavres.
C'est-à-dire que pour un intellectuel tel que le père de Rufus,
oui,
voir son fils s'orienter vers une activité manuelle, c'est pas tout à fait ce qu'il a imaginé pour lui.
Tout à fait. Alors, punition de Rufus, consigné après la classe, plus de sortie. Donc, c'est un peu embêtant pour continuer d'aller voir Melchior. Alors, dans la chambre de Rufus, c'est une vieille crypte avec 6 cercueils, avec des dessins de ses groupes préférés au mur. Donc, on peut citer Brassens Not Dead.
Célèbre groupe punk toulousain.
Tout à fait.
Ou de
alors
qualité.
Cannibal Corpse. Voilà. Puis, il y en avait un autre aussi, Morbid...
Morbid Angel.
Voilà. Des araignées, bien sûr, ça va sans dire. Des rats aussi, des rats zombies. Et puis un chat embaumé aussi.
Tout à fait.
Voilà.
Oui, qu'il a échangé contre des... qu'il a échangé avec des copains momies dans sa classe.
Oui, voilà. Nous, on échangeait des...
On échangeait des billes et
des choses billes,
comme ça.
Voilà. Lui,
ou des osselets éventuellement.
Voilà.
Mais eux aussi, ils auraient pu finalement.
Oui,
les osselets,
osselets
ça pourrait aussi.
Voilà. Alors, son ami Octave trouve une astuce pour faire sortir de sa chambre Rufus, parce qu'il est consigné, donc voilà, et pour pouvoir aller voir Melchior dans son bureau et continuer d'apprendre sur le métier de la mort. Et puis, donc, parce qu'il dit d'ailleurs, il faut prendre des risques dans la mort.
Tout à fait.
Voilà. Et Melchior leur parle donc de l'encou. C'est celui qui transporte les âmes. Et puis, il leur parle aussi des moires, les trois sœurs maîtresses de la destinée.
Alors, ça, c'est aussi l'occasion de glisser
un petit jeu de mots de Rufus.
Oui, et puis il a un peu de culture aussi, parce que voilà, c'est en lien directement avec la mythologie grecque.
Les moires Belle-Hélène.
Voilà, puis en plus, voilà, les moires Belle-Hélène. Un autre jeu de mots culturel. Voilà, c'est typiquement le genre d'exemple dont
oui,
je ne suis pas sûr que les enfants puissent.
Oui, mais les parents apprécient.
Mais que les parents puissent.
Tout à fait, peuvent expliquer, tout à fait. Et puis nous, on apprécie. Voilà, c'est vraiment. C'est pour ça que je dis ce livre, offrez-le à vos enfants et ça sera un cadeau pour vous aussi. Parce que vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup souri à chaque page en le lisant. Alors, Melchior est en colère, quand les garçons vont le rejoindre, car il a reçu des nouvelles directives de la maison mère qui leur demandent d'uniformiser leurs pratiques pour gagner en efficacité, avec des cadres stricts pour rentrer dans le moule. Donc forcément, d'artiste, il va passer à simple manufacturier. Ça, ça ne plaît pas du tout à Melchior, qui va commencer à parler de grève.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire quand on commence à taylorisé un petit peu son travail, et ça lui plaît pas beaucoup.
Bah oui, parce que lui, il imagine des morts, il y a le respect de la personne qui va passer de vie à trépas. Voilà, il les soigne, en fait, c'est les personnes qu'il fait passer à trépas.
Oui, au départ, c'est un artisan, hein, c'est ce qu'il explique, c'est que tout son travail, c'est vraiment de l'artisanat. Il est au plus proche des gens dont il s'occupe. Et là, aujourd'hui, bah, c'est la déshumanisation de
son travail.
De son travail et de la mort.
Tout à fait. Alors, donc Rufus et Octave décident de l'aider. Alors, ils vont fabriquer des banderoles. D'abord, la grève, en fait, c'est un mot que Rufus ne connaît pas.
Tout à fait.
Il faut se rappeler quand même qu'il est mort à 10 ans, donc il n'avait pas encore connaissance.
Et puis, il y a 526 ans, époque où la grève n'existait pas encore.
Oui, en plus aussi. Tout à fait. Donc, Rufus va demander au prof, son père, de lui expliquer ce qu'est une grève. Et donc, son père va lui raconter sa première grève en Égypte sur un chantier de pyramide, forcément.
Tout à fait.
Et puis, Rufus et Octave donc, décident d'aider Melchior donc, à organiser la grève et la manifestation qui est prévue. Alors, ils vont faire des banderoles avec dans des suaires trop blancs pour de Rufus, dont il ne se sert plus, bien sûr. Il y aura des stands de beignets de cafard et de muffins au lombric.
Tout à fait.
Et puis, Melchior doit convaincre ses collègues qui ont un peu oublié la puissance du collectif.
Bah, c'est-à-dire qu'une grève, ça ne se monte pas tout seul. Hein. Si on est tout seul à essayer de se battre, ça ne marche pas très bien. Donc voilà,
on est nombreux, plus ça a de l'impact.
Tout à fait.
Alors, Octave dessine les tracts et les affiches, parce qu'il est assez doué en dessin. Et puis, on peut lire, par exemple, « Non aux cadences infernales »,« La charrette de l'Ankou n'est pas un charter », ou encore « Ne gagnons pas notre mort au suaire de notre front ». Voilà,
toute grève tout en véhicule ses slogans. Hein, donc.
Oui, tout à fait, tout à fait. Avec une superbe double page qui illustre là encore eh bien, tout ce passage de ce roman. Alors Rufus parle avec ses parents, et là il s'aperçoit que ses parents le comprennent en fait, et puis eux aussi ils ont des souvenirs de grève, voilà, et que ses parents l'aiment et qu'ils respectent son choix de métier, de son métier d'avenir finalement.
Oui, bah, finalement ils finissent... Par comprendre que ce n'est pas juste une lubie, c'est ce dont a peur son père au départ et sa mère qui s'en inquiète aussi. Ils ont peur que ce soit juste une lubie passagère et que Rufus parte dans des voies qui finalement finira par regretter, alors qu'en fait il finit par les convaincre
et
leur expliquer que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire et que pour lui c'est extrêmement important.
Oui, parce qu'il leur explique à un moment, il dit un métier ne doit pas être un esclavage mais un espace de liberté. J'aime beaucoup.
Alors là, il reprend ce que lui a dit son père.
Oui,
c'est le jeu de l'enfant qui reprend ce que disent les parents pour le brosser dans le sens du poil, mais oui, tout à fait.
Voilà. Donc la manifestation, c'est un étrange cortège qui se met en route, fait d'individus de toutes origines, mais ayant un point commun, ils ont tous un jour passé l'arme à gauche.
Ben oui, comme tout revenant.
Forcément. Et sauf les personnes des pompes funèbres qui sont venues rejoindre les grévistes, mais qui eux sont encore bien vivants. Pour un certain temps.
C'est ça, c'est les seuls vivants de la manifestation.
Tout à fait. Alors, ils abordent tout, ils abordent tous le badge « Longue vie à la mort ». Et puis la banderole « Tous les hommes meurent libres et égaux en droit ».
Tout à fait.
Voilà, ça c'est aussi ce qu'on peut lire aussi sur les banderoles.
Ça fait partie des slogans,
tout à fait. Alors Rufus est sur les épaules de son père, comme quoi voilà, il y a vraiment ils se sont réconciliés, ils se sont compris. Et puis Rufus et Octave sont très fiers d'avoir participé à l'organisation et bien de la première manifestation de revenants au monde. C'est quand même pas rien.
Ah ben non. Là, du haut de leurs petits moyens, ils ont réussi à fédérer énormément de monde, tous les trois, ce qui est assez extraordinaire.
Et Rufus, d'ailleurs, ressent vraiment ce que veut dire collectif. Il sent que tous ces gens sont unis autour d'un but commun et que pour une volonté d'aller dans la même direction. Pas chacun pour soi, mais chacun pour tous. Là,
exactement.
Il le sent vraiment, il le ressent, il le vit.
Oui, parce que c'est quelque chose qu'ils ont... préparé d'abord avec un tout petit groupe et puis après il se rend compte que voilà, à force de discuter, d'expliquer, il réussit à convaincre les autres revenants de s'intéresser à leur à leur combat entre guillemets et puis de les rejoindre. Et puis tout le monde finit par faire bloc pour justement se dire nous aussi on est mort de façon digne, il n'y a pas de raison que ceux qui vont nous rejoindre bientôt ne le soient pas.
Tout à fait. Alors le temps nous rattrape malheureusement, puis on va pas tout dévoiler du reste du roman. Alors moi j'ai juste posé une question, c'est une belle aventure ce livre, tu l'as dit tout à l'heure avec Églantine et Thibault. Et alors pourquoi ce thème de la grève, de tout cet encadrement au niveau du travail, les conditions de travail et dans le cadre du fantôme de...
Alors d'abord, il faut dire que c'était pas du tout au départ un livre d'actualité, qui n'était absolument pas écrit en lien avec les nouvelles lois travail, etc. C'est une thématique qui me tient à cœur depuis longtemps, mais on entend de plus en plus parler dans les médias, nos enfants sont de plus en plus confrontés dans leurs écoles à ce que ça peut être une grève, voient leurs enseignants, leurs ATSEM, leurs animateurs régulièrement en grève pour revendiquer des conditions de travail qui soient acceptables et qui soient dignes. Et je me suis dit que c'était déjà une thématique qui me tenait à cœur.
Et que tu avais envie
de partager.
D'expliquer à ta manière.
Voilà.
aux enfants.
Voilà. Alors après, c'était pas forcément la thématique principale du roman. C'est avant tout un roman d'aventure, un roman de deux copains qui ont un rêve et qui ont envie de le réaliser.
Voilà.
Et rêve qui se trouve contrecarré par plein de choses. Les parents de Rufus qui veulent pas, les conditions de travail qui commencent à changer,
tout à
etc.
Fait, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour expliquer, voilà, que quand on a un rêve, faut essayer de le réaliser, faut pas lâcher.
C'est exactement ça.
C'est ça. Alors d'autres projets d'écriture, Chrysostome ?
Oui, il y a un roman qui, je l'espère, sortira l'année prochaine, toujours chez Sarbacane,
d'accord,
dans la collection Exprime, donc une collection pour grands ados, toujours un roman fantastique, là, qui aura rien à voir, dans lequel il n'y a pas de portée politique, une sorte de...
Et pas de fantômes non plus ?
Il n'y a pas de fantômes, il y a des monstres dedans, mais il n'y aura pas de fantômes. Un polar qui se passe dans les grands parcs canadiens, entre les grands parcs canadiens et le nord des États-Unis,
d'accord,
autour d'invasion de monstres.
L'occasion de venir nous en reparler à page à page sur Radio Occitanie.
Avec grand plaisir, évidemment.
Merci Chrysostome. Alors je rappelle le titre de ton livre, Rufus le fantôme, avec le sous-titre
Ou la grève de la mort.
Ou la grève de la mort, aux éditions Sarbacane. Un cadeau, donc, comme je l'ai dit, pour mettre au pied du sapin. Et puis, rediffusion ce soir de cette émission à 23h30, ainsi que vendredi prochain à 14h30 et 23h30. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous pour la première émission page à page de l'année 2018, le vendredi 26 janvier à 14h30 sur Radio Occitanie. Et je recevrai Daniel Pagès et son nouveau roman, Des cris dans l'écume, publié aux éditions Yuka. Et on se quitte avec une chanson de Brassens.
Un de mes chanteurs préférés.
Merci Chrysostome.
Merci Adiciat. Claire.
Oh vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes. Comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes. En courant sus un voleur qui venait de lui chiper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, coquin de sort, fit de sa majesté la mort, la rencontre. Telle une femme de petite vertu, elle arpentait le trottoir du cimetière. Aguichant les hommes en toursant un peu plus haut qu'il n'est descend, sensuaire. Oncle Archibald d'un ton gouailleur lui dit va t'en faire pendre ailleurs ton squelette. Filles les femelles, les charnées, vivent les belles, un tantinet, rondelettes. Leur montant sur ses grands chevaux, la mort brandit la longue faux d'agronome. Qu'elle serrait dans son linceul et faucha d'un seul coup, le bonhomme. Comme il n'avait pas l'air content, elle lui dit « Ça fait longtemps que je t'aime. » Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême, ton baptême. Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile. Tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles, imbéciles. Nul n'y contestera tes droits, tu pourras crier « Vive le roi !» sans intrigue. Si l'envie te prend de changer, tu pourras crier sans danger « Vive la Ligue, vive la Ligue !» Ton temps de dupe est révolu, personne ne se paiera plus sur ta bête. Les plaît-il maître auront plus court, plus jamais tu n'auras à court. Bella tête, bella tête. Et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà bras dessous, les voilà partis je ne sais où faire leur noce, faire leur noce. Oh vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes. Comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes.